Et à 18h20, on vous retrouve, Hervé Gardette, pour Du Grain à Moudre.
Merci Aurélie Kiefer et à demain. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Virginie Cassagne. Il n'y aura pas de principe d'innovation responsable dans le préambule de la Constitution. Les élus UMP qui entendaient le substituer au principe de précaution ont échoué dans leur tentative. La proposition de loi a été supprimée au début du mois par la majorité socialiste à l'Assemblée. Le débat n'est sans doute pas clos pour autant. 10 ans après son adoption, le principe de précaution n'en finit pas d'être remis en cause par les milieux économiques notamment, qui y voient une source d'inaction, d'interdiction et d'immobilisme. Parmi les arguments avancés par ceux qui souhaitent en finir avec ce principe, on retiendra celui d'Éric Woerth, le rapporteur de la proposition de loi UMP. En remplaçant, dit-il, le principe de précaution par le principe d'innovation responsable, on encourage la recherche à prendre en compte autant les opportunités que les risques, ce qui laisse entendre qu'on accorderait aujourd'hui trop de place aux risques. Alors une telle affirmation conduit à se tourner du côté de l'expertise scientifique, la mieux à même, a priori, d'évaluer correctement ces risques. Sauf que les réponses apportées ne sont pas toujours satisfaisantes, parce que parfois contradictoires. Ainsi sur la question des produits chimiques, à laquelle se sont intéressés nos deux invités de ce jour. Lisez le livre de Fabrice Nicolino. Et vous aurez la conviction que les industriels de la chimie nous empoisonnent. Lisez celui de Serge Michels et vous serez rassurés, les bénéfices dépassent de loin les inconvénients. Dans un cas comme dans l'autre, des études scientifiques sont avancées pour étayer le propos. Alors à partir d'une lecture croisée de leurs ouvrages respectifs, nous posons la question ce soir, à quelle vérité scientifique peut-on se fier? Et c'est donc notre sujet du jour. Et ce soir, je reçois donc, j'ai déjà nommé, mais je vais les saluer, Fabrice Nicolino, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, vous tenez notamment un blog, Planète sans visa, on pourra retrouver le lien vers votre blog sur notre site, sur franceculture.fr. Vous êtes notamment l'auteur de Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde, c'était aux éditions Les Liens qui libèrent que ça avait été publié, c'est encore dans la même maison d'édition que vous avez publié il y a quelques semaines de cela. Un empoisonnement universel, comment les produits chimiques ont envahi la planète. C'est une longue enquête sur le sujet. Votre interlocuteur ce soir, lui aussi, j'ai déjà dit son nom, c'est Serge Michels. Bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur agronome. Vous avez travaillé dans l'industrie alimentaire ainsi qu'à l'UFC Que Choisir. Vous dirigez aujourd'hui le groupe Protéines, qui est un groupe qui conseille des entreprises dans leur communication. Ces entreprises, vous en citez quelques-unes en préambule de votre livre. BASF, Bayer, donc des industries chimiques, Coca-Cola, Danone, les producteurs d'aspartame, je cite in extenso ce que vous écrivez, producteurs de produits phytosanitaires, de viande, de poisson, de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Le livre dans lequel vous faites ces précisions, c'est « Le marketing de la peur, ondes, pesticides, pilules, aspartame, agir et communiquer pour redonner confiance ». C'est publié aux éditions Erol. Alors, je reste encore un instant sur votre introduction, Serge Michels, dans laquelle vous expliquez pour qui vous travaillez, dans un souci, dites-vous, de transparence. Et vous écrivez également ceci. « Mon expérience m'a démontré qu'on peut s'imposer les mêmes règles d'éthique et de transparence que l'on soit au service d'une agence, d'une entreprise ou d'une ONG. » Ça veut dire qu'on peut parler en toute indépendance de l'industrie chimique quand on est par ailleurs conseiller pour cette même industrie ou pour certaines de ces industries ?
Oui, écoutez, ce livre, d'abord, je l'ai écrit seul. Il a été relu par personne, en tout cas pas par mes clients. Donc, c'est un point de vue personnel sur ce sujet. Et après, j'ai la chance aussi d'avoir la liberté de choisir les gens pour qui je travaille. Donc, je travaille avec des entreprises avec lesquelles je me sens à l'aise et avec qui on partage un minimum de choses. Par exemple, c'est pas un secret, mais on a toujours refusé de travailler pour l'industrie du tabac, par exemple, parce que ça nous paraissait pas compatible avec avec les valeurs ou les points de vue qu'on défend.
Alors, loin de moi l'idée de vous fâcher tout de suite avec Fabrice Nicolino, mais la question que, moi, que j'avais envie de vous poser, Fabrice Nicolino, c'est est-ce que le fait que Serge Michels travaille pour certaines entreprises qui représentent l'industrie chimique, ça rend son propos sur le sujet moins crédible à vos yeux?
Oh, bah écoutez, je ne sais pas, poser la question à n'importe qui de bon sens, bien sûr que ça rend sa parole, disons, liée, et pour tout dire, mon sentiment prisonnière. Quand même, c'est un peu gonflé d'entendre ça. Je vais parler de l'industrie du tabac, bien sûr. Vous arrivez après la bataille, c'est-à-dire 50 ans après qu'on a commencé à voir les méfaits, les épouvantables méfaits de l'industrie du tabac. Mais enfin, vous travaillez pour BASF et Bayer, qui sont deux entreprises chimiques de taille mondiale, qui ont, comment dire, la responsabilité directe dans la mort par milliards, par dizaines de milliards des abeilles en France. Je parle de la France, je ne parle pas du reste du monde. Tout ça étant maintes et maintes fois établi par des études scientifiques solides, sérieuses, mais certes pas par des études scientifiques payées par BASF et par Bayer, comme par hasard.
Ce que vous
donc,
me dites,
si vous voulez, c'est pas rien de travailler au service d'entreprises que moi personnellement je n'hésite pas à qualifier de criminelles. Ce n'est pas rien de travailler pour le compte d'entreprises comme Bayer ou BASF.
Ce que dit Serge Michels, enfin je vais vous laisser le dire d'ailleurs, mais c'est que ça n'est pas rien non plus de travailler ou de militer au sein de certaines associations défense de l'environnement. C'est-à-dire en gros, vous dites du conflit d'intérêts, ben, y en a partout.
Oui, on a tous des intérêts et des points de vue. Si j'ai fait ce livre, c'était parce qu'il me semblait intéressant de justement d'avoir un débat sur ces sujets. C'est-à-dire, je ne crois pas que la vérité soit d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'on va débattre de la question de la vérité scientifique. Et s'il y a autant de débats, c'est bien parce que souvent les questions scientifiques sont d'une grande complexité et que la communauté scientifique elle-même se pose ces questions au débat. Et l'idée, c'est, enfin, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit dans une démocratie d'exprimer un point de vue, que l'on soit une ONG, que l'on soit une association de consommateurs, puisque j'ai travaillé pour une association de consommateurs, que l'on soit un industriel.
Et après, s'il y a autant dans le débat, Serge Michels, vous dites dans le livre, c'est aussi finalement parce qu'il y a des visions du monde qui s'affrontent. J'ai compris que vous vouliez dire qu'en fait, il n'y a peut-être pas une vérité scientifique, mais qu'il y a des vérités scientifiques en fonction de la vision du monde qu'on défend.
Bien sûr, nous avons tous une clé de lecture différente du monde. Et Monsieur Nicolino ramène tout ça à des intérêts, des histoires d'argent, mais je crois que c'est...
Vous avez sans doute quitté le service de l'UFC Que Choisir, la grande association de consommateurs, sans doute pour le bien commun, sans aucune hésitation possible. Vous êtes passé donc du bien commun, du service public, selon moi, du service rendu au public qui était l'association de consommateurs UFC Que Choisir, et vous êtes allé travailler pour l'industrie privée. Moi, je vais vous dire un truc. Mais vous êtes un lobbyiste.
Non, je ne suis pas un lobbyiste.
Si, vous êtes un lobbyiste. Protéines est une agence de lobbying
non, on n'est pas une agence
au service
de lobbying,
des industriels.
C'est pas grave.
Je veux juste vous dire un petit truc très simple. Comparer les ONG que je ne défends pas, que j'ai moi-même attaqué dans plusieurs ouvrages, donc je ne suis pas là pour les défendre, mais prétendre comparer, si vous voulez, la défense lobbyiste d'intérêt particulier à la défense d'ordre général des ONG que vous attaquez dans votre livre, comme le WWF ou Greenpeace, c'est un petit peu léger, si je peux me permettre. L'intérêt particulier des entreprises n'est pas comparable à l'intérêt général des sociétés humaines, que je sache.
Alors, laissons répondre Serge Michels.
Il y a juste une chose qui vous échappe, c'est que tout ce qui nous entoure est fabriqué par des entreprises et par des industriels. Donc, on peut soit considérer qu'on doit se battre contre ces entreprises, on peut aussi considérer qu'on peut les aider à évoluer, à améliorer leurs produits, à améliorer leur façon de faire. Et en général, les gens qui viennent travailler avec nous, on travaille beaucoup sur des sujets autour de la nutrition, autour de l'obésité, autour de ces produits. C'est aussi pour comprendre comment on peut mettre des démarches de progrès et comment on peut avancer avec les entreprises. Un de nos clients importants est McDonald's. On peut considérer que McDonald's, c'est pas bien. On peut aussi considérer que c'est intéressant d'avancer avec McDonald's pour faire progresser jour après jour la qualité des produits.
Donc,
et c'est exactement le même sujet.
J'en conclus audacieusement que vous auriez travaillé pour l'industrie du tabac il y a 50 ans et que vous auriez cherché à la faire évoluer jusqu'à la situation qu'on connaît aujourd'hui, à savoir que l'OMS, dans ses prévisions officielles, estime que si la consommation de tabac continue à augmenter au rythme qui est le sien aujourd'hui, le tabac, cette industrie du tabac, va tuer 1 milliard d'humains au cours du 21e siècle. Donc votre logique, c'est accompagner l'industrie, mais je veux dire des exemples comme ça, excusez-moi de vous le dire, vous connaissez mal l'histoire industrielle, car l'industrie l'industrie. C'est son histoire que je décris dans mon livre. Que ce soit l'industrie du tabac...
Enfin, vous décrivez surtout la Première et la Deuxième Guerre mondiale et pas tellement ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises.
Je vois que vous n'avez pas lu mon livre. C'est votre droit le plus strict.
Alors moi, j'ai lu et le livre de l'un et le livre de l'autre. Donc je vais essayer de trancher de toute manière. Moi, je me doutais bien que vos positions seraient assez difficilement réconciliables. Je dois dire d'ailleurs que je vous remercie grandement d'avoir accepté malgré tout l'idée de débattre l'un avec l'autre. Mais on va essayer quand même dans la demi-heure. Et oui, il ne nous reste déjà plus qu'une demi-heure qui nous reste, de vous laisser développer à chacun votre argument. Alors ce qui vous lie finalement tous les deux, c'est l'intérêt que vous portez à l'industrie chimique, qui évidemment n'est pas la même. Quand on vous lit, je disais Fabrice Nicolino, on a vraiment de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, vous ne vous cachez pas de cette intention-là, qui est de dire vous devriez sans doute vous inquiéter, parce qu'il y a de bonnes raisons de le faire. Vous expliquez notamment que l'industrie chimique est responsable de l'augmentation d'un certain nombre de maladies contemporaines que sont le cancer, l'autisme, Alzheimer, le diabète, l'obésité.
Non, je ne dis pas ça, je suis navré de vous couper, mais je ne dis pas ça. Je dis, il y a une augmentation extraordinaire de l'incidence du nombre de cas de maladies comme le cancer ou Alzheimer ou l'obésité ou le diabète. Ce sont des faits certains.
Le cancer, c'est un peu plus complexe
Les
chiffres de l'Institut national de veille sanitaire, les chiffres officiels français, font état d'une augmentation prodigieuse de 110% des cas de cancer en France entre 1980 et 2012.
Bon, et qu'est-ce que vous ne dites pas alors par rapport à ce que j'ai dit?
Ça, c'est la première chose que je dis. Et la deuxième chose, c'est qu'il existe un nombre considérable d'études parues dans les grandes revues scientifiques de la planète qui tracent des liens entre l'apparition de ces maladies, disons l'exposition à certains toxiques chimiques et ces maladies.
C'est exactement ce que je viens de dire, Fabrice Nicolino.
Non. Je veux dire que l'industrie chimique n'est pas responsable de ces maladies. Moi personnellement, je n'ai pas tranché. Je pense compte tenu de l'avalanche d'études scientifiques concordantes, qu'il y a assurément un lien entre cette explosion épidémique de ces maladies et l'exposition à des toxiques chimiques.
Voilà. Alors vous, si vous devez faire un lien, Serge Michel, j'espère que là, j'ai bien compris, vous le faites plutôt dans le fait de dire que, en tout cas, cette industrie, que la chimie moderne, disons, a aussi, et peut-être avant tout, permis à la population de la planète, en particulier en France, de vivre mieux et plus longtemps.
Oui, la chimie, c'est aussi les médicaments, hein, c'est aussi la protection des plantes, donc c'est beaucoup de sujets. Finalement, on parle de la chimie...
Si vous n'arrêtez pas de vous interrompre, je vous assure que ça va être très très compliqué et assez difficile à supporter pour les auditeurs.
La chimie, en fait, c'est l'ensemble du vivant. C'est-à-dire que notre organisme, c'est une usine chimique à transformer des aliments en énergie, etc. Je dis en aucun cas qu'aucun produit chimique n'a jamais posé un problème de santé. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il est de comprendre où on en est aujourd'hui par rapport à où on en était effectivement il y a 50 ans, il y a 60 ans. Et la question, c'est est-ce que les systèmes, moi ce qui m'intéresse, c'est le futur, est-ce que les systèmes aujourd'hui de contrôle, de mise sur le marché, de maîtrise de ces produits et tous les systèmes d'encadrement sont satisfaisants? Comment on les fait progresser? Comment les entreprises progressent sur ces sujets?
Et est-ce qu'ils le sont satisfaisants?
Bien évidemment qu'il y a des produits par le passé, on a découvert, et je ne le conteste pas, on a découvert par le passé, par des études scientifiques, que des produits avaient des effets sur la santé. Mais nos voitures en 1970, elles polluaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et c'est vrai pour l'ensemble des produits qu'on consomme.
Ça pour vous c'est par le passé, aujourd'hui c'est plutôt satisfaisant?
En tout cas, on a un niveau de sécurité que l'on n'a jamais obtenu. Il faut quand même juste rappeler qu'on a une des meilleures espérances de vie au monde et qu'elle continue de progresser de 3 mois tous les ans. Donc les faits sont quand même plutôt positifs.
Alors ça, c'est un argument que vous contestez directement, Fabrice Nicolino. Oui, je vais vous laisser le faire d'ailleurs, puisque comme ça m'évitera de...
Non, mais je vous prie de m'excuser parce que je voulais être précis sur cette histoire, ce qui est très importante. Je ne voudrais pas être assis à des accusations trop frontales, même si au fond, je suis d'accord avec vous. Soyons clairs. Donc, c'est compliqué l'histoire de l'espérance de vie. Donc je vais essayer d'être clair, mais malheureusement, j'aurais pas le temps de tout expliquer. D'une part, l'espérance de vie, dans l'absolu, elle stagne. Elle n'augmente pas, monsieur Michel.
Non, elle augmente de 3 mois. C'est les données de l'INSEE. Elle augmente de 3 mois tous les ans.
Laissez-moi finir.
Vous ne pouvez pas contester les chiffres de l'INSEE.
Alors, laissons cette fois-ci parler Fabrice Nicolino.
Laissez-moi finir. Elle a tendance à stagner, je le maintiens, et je peux vous le prouver aisément. Dès qu'on sera sorti du studio, je vous montrerai mes chiffres.
J'ai regardé les chiffres il y a une demi-heure encore sur Internet, les dernières données de l'INSEE.
Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, l'indicateur, le véritable indicateur intéressant, et qui est celui proposé par l'Union européenne, c'est l'espérance de vie pays sans incapacité. C'est ça le grand indicateur dont on devrait tous parler. Espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire tout simplement pouvoir vivre sans déambulateur, sans avoir oublié qu'on avait des enfants, parce que ça c'est le cas des Alzheimer, et ce genre de choses. Et cette espérance de vie sans incapacité, qui est la seule digne d'intérêt selon moi, cette espérance, elle baisse d'une manière sensible en France depuis 2008, d'après tous les experts du sujet. Ce que je veux dire, pour finir, c'est que cette espérance de vie, c'est une sorte de mythologie nationale, c'est-à-dire tout le monde se réfère à ça sans réfléchir à ce que ça veut dire. En fait, quand on parle d'espérance de vie, on estime, c'est très simple, on estime que ceux qui naissent aujourd'hui, ou ceux qui sont nés il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, vont vivre jusqu'à telle date. Mais qui le sait? Personne ne le sait. Je veux dire, quelqu'un qui a un enfant qui naîtrait aujourd'hui sera exposé dans le moment de sa conception, in utero même, à des produits qui n'existaient pas il y a 80 ou 90 ans. Donc c'est très audacieux d'espérer, car c'est un espoir, c'est une chimère.
Ce qui est très étonnant, c'est que finalement, les produits qui étaient les moins encadrés seraient moins dangereux que les produits les plus encadrés. C'est-à-dire, on est en train de nous prêcher l'apocalypse pour dans 50 ans.
Je vois que vous n'avez pas lu mon livre.
Si, j'ai lu votre livre et je connais bien vos propos, mais... Ah. La période où il y a eu le moins de contrôle sur ces activités, mais sur l'ensemble des activités, c'est l'après-guerre. Évidemment que dans les années 50 à 70, les préoccupations environnementales et préoccupations sanitaires n'étaient pas les premières préoccupations parce qu'il y avait un vrai enjeu de reconstruction, de croissance. Et oui, il y a eu probablement beaucoup de choses qui se sont passées, si on les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, qui ne sont pas satisfaisantes. Mais vous ne pouvez pas dire que des produits... Quand on voit, pour mettre l'exemple d'un pesticide, on met 10 ans de recherche, 200 millions d'euros aujourd'hui pour mettre un produit sur le marché. Vous ne pouvez pas nous dire que nos enfants seront plus malades avec ce type de produit, alors qu'au sortir de la guerre, le dossier scientifique, c'était une page à quatre recto verso. Donc on ne peut pas prêcher ce type de discours.
Fabrice Nicolino, vous écrivez « La santé des vieux est meilleure que celle des jeunes ».
Oui, c'est sûr, parce que si vous voulez, moi je suis ravi que nos vieux vivent vieux et peut-être ont des chances pour certains d'entre eux de devenir centenaires. Mais disons, il y a beaucoup de preuves scientifiques. Il y a beaucoup de preuves scientifiques que les choses risquent fort de changer dans les années, dans les décennies qui viennent, tout simplement parce que les conditions de vie ont radicalement changé et qu'il existe aujourd'hui, selon les sources officielles, il existe aujourd'hui environ, aussi incroyable que ça puisse paraître, environ 70 millions de molécules de synthèse, c'est-à-dire des molécules qui ont été pour l'essentiel inventées par l'homme, par les activités humaines, qui sont différentes les unes des autres, et dont on ne connaît pas les effets dans 99,9% des cas.
Non, donc une possible dégradation de nos conditions de vie, Fabrice Nicolino, oui, qui serait liée à une trop forte exposition aux produits chimiques,
oui,
c'est ça?
Parce qu'il y a une omniprésence dans tous les milieux de la vie, si vous voulez, que ce soit y compris dans l'eau potable, il y a des résidus, mais dans l'alimentation, bien sûr, malgré les efforts de M. Michels, dans l'air intérieur qu'on respire, tout ça est très fortement documenté, dans l'air extérieur, n'en parlons pas, donc dans les sols agricoles, dans tous les produits alimentaires, donc si vous voulez... Cela n'existait pas il y a encore soit 50 ou 60 ans. Et maintenant, c'est omniprésent.
Serge Michel, vous n'avez pas eu accès à cette documentation qu'évoque Fabrice
Nicolino. Il y a 50 ou 60 ans, on ne vivait pas très vieux quand même. Quand on a donné la retraite à 65 ans, l'espérance de vie était de 58 ans. Donc statistiquement, on l'a donné 7 ans après la mort des populations. On ne peut pas dire qu'on n'a aucune connaissance sur ces molécules. Enfin, on n'a jamais eu autant d'études scientifiques, autant de publications,
vous
elles sont en plus en accès ouvert. Écoutez, j'étais membre d'un comité d'experts scientifiques, j'ai passé 5 ans à examiner des produits, des additifs, des contaminants. J'étais dans les délégations internationales au Comex Alimentarius à voir les dossiers, donc je pense que j'ai eu un petit peu de recul sur ces sujets. On ne peut pas laisser dire que la situation, qu'on ne sait rien et que la situation est pire. Et cette histoire de présence... C'est l'outil de mesure qui évolue. Je vais vous donner un exemple que je cite dans mon livre. Aujourd'hui, les seuils de détection des molécules, d'un certain nombre de molécules chimiques, c'est une goutte dans 66 000 piscines olympiques.
Vous écrivez 72 000 piscines olympiques.
72 000. Ça dépend des molécules, etc. Simplement, cette notion de présence, elle ne veut rien dire en soi.
On est capable de détecter
à peu près tout, n'importe où.
Mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on détecte quelque chose que ça amène la preuve de sa dangerosité.
Ça veut dire quelque chose s'il y a une quantité importante. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on détecte et qu'il y a des quantités importantes, ce qui est arrivé, ce qui arrive, il y a des zones qui sont polluées, il y a eu des lacs, je ne suis pas en train de dire que les problèmes de pollution n'existent pas. Mais la simple présence ne veut rien dire. En revanche, ce qui est important, c'est de voir effectivement est-ce que la molécule a une toxicité et est-ce que le niveau auquel on peut être exposé présente un risque pour la santé. Et oui, il y a eu des cas où il y a eu des pollutions volontaires ou accidentelles. Enfin voilà, les dioxines Céveso, tout ça, ce sont des histoires, ce sont des choses qui existent. Il y a eu des conséquences pour la santé. Il ne s'agit pas de les nier, ce n'est pas ça le débat.
Fabrice Nicolino, en deçà de certains seuils, certains produits toxiques ne sont pas nocifs.
Malheureusement, non. Monsieur Michel, la science avance, elle progresse. Pendant 4 siècles, tout le monde a cru, et moi j'aurais cru de même, hein, je veux dire, je ne suis pas plus malin qu'un autre, mais la science, tous les scientifiques ont cru avec Paracels, ce grand savant du XVIe siècle, ont cru que la dose faisait le poison. C'était la grande phrase qui nous est restée de cet homme génial, Paracels, c'est la dose fait le poison, c'est-à-dire plus on est exposé à quelque chose de toxique, et plus on est malade, plus on souffre, plus il y a des effets biologiques. Malheureusement, ça, cette connaissance-là est en train de voler en éclats. Laissez-moi parler. La toxicologie est en train de prouver l'existence d'effets qu'on appelle non monotones, monsieur Michel. Ces effets non monotones, de quoi s'agit-il? On s'aperçoit avec horreur, mais c'est un fait, que certaines molécules ont un effet plus puissant à faible dose qu'à forte dose.
Est-ce qu'il y a un exemple par exemple?
Mais par exemple, beaucoup de perturbateurs endocriniens, on en parlait juste avant d'entrer dans ce studio, parce qu'une dame que je salue, qui vient de mourir avant-hier, madame Théo Colborn, et cette scientifique. Il y a scientifiques et scientifiques, vous comprenez. Il y a des scientifiques qui mettent leur savoir et leur expérience au service de la communauté, et puis d'autres qui mettent leur savoir au service de l'industrie.
Vous parliez d'exemple, pas du tout.
Je vois que vous ne connaissez pas. Mais il existe recensé dans le grand registre universel du CAS 70 millions de molécules. Le programme européen de contrôle.
Oui, enfin, dedans, il y a l'eau, il y a le glucose, il y a le sucre des fruits, il y a les fibres. Tout ça, ça fait partie des molécules.
Vous savez combien il en existe de nouvelles chaque jour? Allez y voir. Si vous voulez, je vous montre ça tout à l'heure. Tous les jours, il y en a entre 15 et 20 000 différentes qui ne sont pas testées, monsieur Michel. Et moi, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé dans votre livre.
Il faut revenir sur ce point, parce que c'est un vrai mensonge.
Vous allez faire. Mais je vois juste dire un truc. Dans votre livre, j'ai eu le temps de voir ça et c'est très intéressant. Vous en êtes réduit à contester l'interdiction du bisphénol A par les autorités françaises.
Alors,
c'est extraordinaire.
Si vous permettez, Fabrice Nicolino, je voudrais qu'on aille spécifiquement sur cette question du bisphénol A, parce que c'est, je veux dire, un sujet à propos duquel, après avoir lu vos deux livres, moi, je ne sais plus très bien quoi penser. Mais peut-être d'abord répondre sur la question de la dose fait le poison, la dose ne fait pas le poison. Serge Michel.
Deux choses. Les perturbateurs endocriniens n'ont pas tous des doses non monotones. Je vous incite, si vous dites demain aux femmes de réduire leur pilule en poudre et de prendre juste quelques pincées, vous allez voir l'évolution de la natalité en France. Si vous prenez quelques pincées de paracétamol, qui est un perturbateur endocrinien, votre mal de tête ne va pas passer. Donc, on est en train de prendre, effectivement, on a découvert qu'il y avait des molécules, qu'il y avait des réponses anormales et pas conformes à ce qu'on voyait habituellement en toxicologie. Mais ce n'est pas une généralité. Ça existe et il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent dessus pour comprendre et pour identifier quelles sont les molécules qui ont ce type de réponse. Le nombre de molécules, dire il y a 90 millions, parce qu'il y en a 90 millions sur le CAS de molécules, dedans il y a l'eau, etc. Et pourquoi on rajoute toujours des molécules? En fait, le cas, si vous voulez, c'est le registre. C'est-à-dire quand on découvre une molécule, mais ce n'est pas l'invention de molécules et ce n'est pas la mise sur le marché de molécules. Donc c'est simplement quand vous avez découvert une structure, on lui donne un numéro d'enregistrement. Mais dedans, il y a l'eau, il y a le glucose, il y a tout ce qui nous entoure.
Donc, on synthétise entre 15 et 20 000 chaque jour, monsieur Michels. Je me suis renseigné auprès des plus hautes autorités mondiales. Alors, à moins que vous contestiez les autorités mondiales de la chimie, vous assurer.
Il y a quelques dizaines de groupes chimie mondiaux, ils synthétisent 1500 molécules par jour. Vous vous rendez compte?
Mais tout le monde peut synthétiser. Il y a une gamine de 10 ans qui a réussi à synthétiser une molécule et qui a été enregistrée dans le registre du CAS. Tout le monde, vous y compris, sans doute, vous pouvez synthétiser une molécule avec un petit peu d'effort.
Pour rester sur la question des doses qui font ou pas le poison, il y a une notion qu'on n'a pas évoquée, qui est la DJA, la dose journalière admissible, qui est le niveau en deçà duquel, a priori, justement, un produit n'a pas d'effet dangereux, n'a pas d'effet toxique. Est-ce que vous considérez, donc, Fabrice Nicolino, que du coup, cette notion-là et ce principe-là est un principe qui est rendu caduque par les découvertes que vous évoquez?
Oui, en bonne partie, mais si vous voulez, c'est une histoire, donc elle est complexe, et je suis navré de devoir dire ça en trois mots, mais disons, la DGA...
Il faudra aller lire le livre de l'un et de l'autre.
La DGA, c'est une histoire, c'est-à-dire qu'il y a un inventeur, supposé en tout cas, mais on se rend compte, puisque j'ai fait ce travail de recherche qui a été pénible, mais très intéressant, on se rend compte que cet inventeur n'est peut-être pas l'inventeur de cette notion, qu'elle a été qu'en tout état de cause, elle a été bricolée sur un coin de table. Laissez-moi finir, je vous en prie. Je sais de quoi je parle, j'ai travaillé longtemps dessus, et j'affirme solennellement ce que je suis en train de dire.
Comme si vous dites la première voiture, le premier ordinateur était bricolé dans un garage.
Je vous dis
et donc
parce
les
que
ordinateurs
je
n'ont
vous
pas
dis,
de... Enfin, c'est
je
du même
vous dis
ordre.
Parce que je l'ai vérifié que ça a été bricolé sur un coin de table.
Oui, mais ça a
que
été vérifié
inventeur,
par tous les toxicologues
inventeur,
du monde. C'est utilisé par tous les toxicologues
alors,
du monde.
Et alors,
si ça n'était pas
alors,
vrai, aujourd'hui dans
alors.
Un monde où
mais
vous avez...
Monsieur Michel,
vous avez des dizaines de milliers de publications scientifiques. Si quelque chose ne fonctionne pas, on le voit dans la science.
Vous semblez oublier des choses simples. L'industrie du tabac, l'industrie de l'amiante, l'industrie des pesticides, par exemple, et beaucoup d'autres, ont tué ou tuent encore dans ce monde. Alors, je vais dire, où ont été vos scientifiques et vos industries dans ces moments-là enfin,
toutes
elles
les
ont
études,
été derrière toutes leurs
les,
intérêts
toutes
privés,
les études de toxicologie,
fait...
vous pouvez regarder, on observe des relations d'effet. Tous les médicaments, si vous
je
prenez,
n'ai pas dit, je
si
n'ai
vous
pas,
prenez trois fois la dose de médicaments, vous vous portez bien, il n'y a pas d'effet indésirable. Si vous n'en prenez pas assez, vous n'avez pas d'effet. C'est bien l'explication de la relation dose-effet qui concerne l'immense majorité des molécules.
Mais on est d'accord, voyez-vous. C'est extraordinaire,
vous avez dit qu'aujourd'hui la DGA n'avait pas de sens. La DGA, c'est la traduction toxicologique de cette relation entre une dose et un effet.
Toxicologique. Monsieur Michels, à votre connaissance, on a travaillé sur combien de molécules chimiques depuis, disons, 50 ans. Est-ce que vous en avez une vague idée? Regardez, le programme de contrôle REACH, dont certainement vous êtes un des chantres, le programme de contrôle REACH des produits chimiques en Europe porte sur 30 000 substances. 30 000 substances. On en est d'un autre côté, vous aviez raison de me corriger d'ailleurs, ce n'est pas 70 millions, c'est en effet 90 millions. Mais et sur ces 90 millions, car j'ai interrogé, excusez-moi de vous le redire, des autorités mondiales dans la chimie, sur ces 90 millions, il y a probablement entre 20 et 30 millions de substances qui sont dites commercialement disponibles. Donc n'essayez pas de faire croire aux auditeurs
que
c'est contrôlé, car ça n'allait pas.
Correspond à l'inventaire des molécules qui sont mises sur le marché. C'est pas parce qu'une molécule, l'eau, c'est pas parce qu'elle a un registre CAS qu'elle doit faire l'objet d'être dans REACH.
Alors on va pas tenter de dresser l'inventeur justement des molécules qui sont sur le marché aujourd'hui, parce qu'il y en ait des milliers ou des centaines de milliers, de toute manière on n'aurait pas l'émission pour en parler. Revenons justement à l'une d'entre elles qui est le bisphénol A. Alors c'est une molécule qui est formée à la suite d'une réaction chimique entre phénol et acétone. Je reprends exactement ce que j'ai lu chez vous, Fabrice Nicolino, qui est utilisé pour fabriquer des plastiques qui sont particulièrement résistants. On en a partout, dans les tickets de caisse notamment. Il y en avait dans les biberons, jusqu'à ce que justement leur utilisation soit interdite pour les plastiques polycarbonates avec lesquels sont fabriqués les biberons. Ça a été interdit en France en 2010, à partir du 1er janvier 2015, donc c'est-à-dire dans quelques jours, le bisphénol A sera interdit dans tout contenant alimentaire. Vous, Serge Michels, vous dites que le bisphénol A, il a été interdit en France, je crois également au Canada, dans peu d'autres pays, contre l'avis des experts, dites-vous. Oui. Contre l'avis des experts.
Oui, c'est-à-dire que ça a été une demande politique et pas une demande des experts. Juste parce que c'est vraiment un sujet passionnant, le bisphénol. C'est ce qu'on est en train de vivre sur énormément de produits aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas blanc ou noir. C'est pas un produit dont la toxicité est avérée, démontrée, tout le monde est clair. Sinon, il serait déjà retiré du marché, puisqu'il y a des critères réglementaires. Mais c'est un produit qui a des effets biologiques, qui interagit avec certains récepteurs endocriniens. Et tout le débat, et c'est là où on n'est pas d'accord, c'est que l'interaction avec le système endocrinien ne veut pas forcément dire problème de santé. Et la question, c'est d'essayer de comprendre à partir de quels sont les types d'interactions, quels sont les niveaux qui posent des problèmes sur la santé. Et là, on va dire que c'est un perturbateur endocrinien.
Mais juste, à partir du moment où il y a un doute, est-ce que ça ne justifie pas qu'on l'interdise?
Si, mais je n'ai pas de souci par rapport à ça, à condition qu'on ait des alternatives plus sûres. Il est juste là le débat, en fait. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. On a dit, on va supprimer le bisphénol A des tickets de caisse. Qu'est-ce qu'on met à la place? Du bisphénol S. C'est pas mieux, c'est même moins bien étudié, moins bien connu. Donc la question, elle n'est pas forcément, quand il y a un doute, de passer à autre chose. La question, elle est déjà d'avoir le maximum d'éléments scientifiques et surtout d'être certain que les solutions qu'on prône sont plus sûres Or, aujourd'hui, c'est bien le souci sur le bisphénol. Il y a certaines applications sur lesquelles on peut se passer du bisphénol, il y en a sur lesquelles c'est complexe.
Fabrice Nicolino.
C'est une question, en effet, complexe. Au moins, on est d'accord aussi là-dessus, ce qui est bien. Mais c'est gonflé, permettez-moi de vous le dire, de vous opposer à cette décision publique de santé publique tellement, tellement évidente. Les perturbateurs endocriniens...
La France est plutôt isolée dans cette interdiction.
Personne dans le monde n'a interdit le bisphénol.
On peut aussi considérer qu'elle est pionnière, n'est-ce pas ? Enfin, je veux dire, tout dépend de la manière dont on voit les choses. En tout cas, les perturbateurs endocriniens, ça n'existait pas il y a 24 ans. C'est une dame dont je t'ai déjà parlé, Théo Colborn, qui invente cette expression à la suite... Oui, mais c'est pas vos amis de l'industrie qui nous l'auraient fait savoir. En tout cas, cette dame a fait ce travail extraordinaire. Et depuis cette date, ainsi que je le documente très fortement dans mon livre, depuis cette date, il y a un sabotage organisé des industriels, dont certains défendus par M. Michels, pour empêcher, en effet, des mesures de santé publique concernant les perturbateurs endocriniens. Au début, il y en avait quelques-uns. On découvrait avec stupéfaction que certains produits chimiques mimaient les hormones naturelles et réussissaient à entrer dans le corps des humains et à désorganiser le système endocrinien qui est essentiel pour notre vie, pour notre sommeil, pour notre reproduction, pour une quantité de fonctions essentielles. Donc, au début, il y en a quelques-uns et puis quelques dizaines. Aujourd'hui, on en est à près d'un millier et je vous garantis, gardez soigneusement ce que je vais vous dire en mémoire, je vous garantis que dans quelques années, on en sera probablement à 10 000 ou 20 000. Et les perturbateurs endocriniens, c'est extrêmement problématique. Des dizaines et des centaines de chercheurs de niveau mondial le crient sur les toits. Il y a par exemple une déclaration, la déclaration de Blaimont, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est une déclaration d'une certaine manière sensationnelle, qui s'adresse au pouvoir politique et qui lui demande d'enfin agir, car depuis 25 ans, vos amis les industriels sabotent toutes les tentatives de santé publique dans ce domaine.
Juste encore un mot sur le bisphénol A, Fabrice Nicolino. Est-ce qu'on a eu raison, d'après vous, de l'interdire parce qu'on a la certitude que ça a un effet nocif sur la santé ? Ou bien est-ce qu'on a eu raison de l'interdire parce qu'on a des doutes, justement, sur sa nocivité ?
Écoutez, sur la base de ce que j'ai pu lire, et je peux vous assurer d'une chose, c'est que j'ai lu des dizaines et des dizaines d'études scientifiques en anglais, ce qui n'est pas ma langue favorite. J'ai fait ce travail. Je peux vous dire que sur la base de ce que j'ai vu, il n'y a strictement aucun doute sur la dangerosité du bisphénol.
C'est bien, tous les experts du monde se trompent, alors sauf Fabrice Nicolino.
Mais vous plaisantez. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Les experts payés par l'industrie qui sabotent le travail de la Commission européenne, qui sabotent le travail des agences de sécurité, disent cela. Mais les experts qui n'ont pas de conflit d'intérêts,
les comités d'experts officiels sont des gens qui sont des universitaires, qui sont des chercheurs, universitaires. Ce ne sont pas les experts de l'industrie.
Mais si, monsieur.
L'évaluation des dossiers scientifiques, ce ne sont pas les experts de l'industrie. Il y a quelque chose qui s'appelle les déclarations d'intérêts. Vous ne pouvez pas siéger dans un comité d'experts si vous avez un conflit d'intérêts sur le dossier en question.
Soit vous n'êtes pas au courant. Et dans ce cas, il n'est pas trop tard pour apprendre. Soit vous êtes au courant, et là, je trouve que vous êtes assez sévèrement gonflé avec les auditeurs de France Culture.
Les divergences qu'il peut y avoir au sein de la communauté scientifique sur un certain nombre de sujets. Alors là, par exemple, sur le bisphénol A, puisqu'on est d'accord qu'il y a quand même des scientifiques qui considèrent que c'est nocif et d'autres qui considèrent qu'on n'aurait pas dû l'interdire.
Il y a des effets sur l'organisme. On ne sait pas si ces effets sont délétères, mais il y a des effets sur l'organisme.
En tout cas, on va dire qu'il y en a qui considèrent qu'il fallait l'interdire, d'autres qui considèrent qu'il ne fallait pas. Bref, est-ce que ces débats-là, ils sont liés forcément au fait qu'il y ait conflit d'intérêts ou pas, ou bien est-ce que ça n'est pas aussi, finalement, la façon qu'a de fonctionner la communauté scientifique, c'est-à-dire le consensus en matière scientifique, de toute manière, ne peut pas exister. Et c'est normal qu'il y ait du débat, même si à un moment donné, il faut prendre des décisions. Fabrice Nicolino.
Mais vous avez raison. Bien sûr que le débat est nécessaire et même vital, je dirais. Mais c'est pas vraiment de ça qu'on parle, à mon avis. Parce que si vous voulez, par exemple, autour de Théo Colborn et autour de cette invention, entre guillemets, des perturbateurs endocriniens, je parle du nom, bien sûr, et pas du phénomène. Eh bien, il y a eu beaucoup de débats, tout ça a duré des années, il y a des années d'efforts incroyables. Moi, je connais l'histoire des recherches menées par Théo Colborn et certains de ses collègues. Ça a duré des années de prise de tête, si vous me passez l'expression, au cours desquelles on a cherché des explications à des phénomènes qu'on comprenait mal. Donc, il ne s'agit pas du tout d'opposer des scientifiques qui chercheraient tous de bonne foi et qui ne tomberaient pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit, compte tenu de l'histoire industrielle telle qu'on la connaît depuis un siècle, on a le droit de s'interroger sur ces scientifiques qui travaillent au service de l'industrie, car l'industrie, et je ne conteste pas ce droit-là, l'industrie a des intérêts qui ne sont pas des intérêts humains. L'industrie a des intérêts matériels, des intérêts commerciaux que je respecte en tant que tel, mais ce qui est absolument insupportable à mon avis, c'est que l'industrie réussit à imposer, notamment grâce au travail de lobbyistes, l'idée complètement fausse selon laquelle ces intérêts particuliers seraient les mêmes que ceux de la société tout entière, et ça c'est totalement faux.
Quand on vous lit Serge Michel, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont disons les lanceurs d'alerte, en tout cas ceux qui s'opposent au discours peut-être des industriels que l'on écoute le plus et qui arrivent à instiller du doute, notamment dans les médias.
Oui, alors ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression que le débat n'est pas dans la communauté scientifique. En fait, le débat, il est présent. C'est-à-dire que les experts, aujourd'hui, il y a énormément de débats, de discussions sur cette question de la perturbation endocrinienne. Il y a des points de vue différents dans les scientifiques. Il faut juste comprendre que les produits, ils passent par des systèmes d'autorisation et d'homologation pour être mis sur le marché. C'est-à-dire qu'ils doivent produire des dossiers scientifiques et que c'est examiné par des experts indépendants. Indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien avec le dossier en question. Et c'est comme ça que se fait la mise sur le marché. Donc, on ne peut pas laisser penser que ces produits, ils apparaissent comme ça, du jour au lendemain, sur le marché, sans être étudiés, sans être mis sur le marché. Alors, parfois, il y a des produits qui sont anciens. C'est le cas du bisphénol, où il y a des évolutions des connaissances scientifiques. On revient sur ces dossiers. On se repose des questions. Juste quand même, si les choses étaient aussi simples. Les scientifiques ne sont même pas d'accord entre eux sur la définition du perturbateur endocrinien, sur les termes de la définition. Donc, ils sont tous d'accord pour dire que c'est un sujet. Il y a des substances qui sont perturbatrices endocriniennes et qui posent des problèmes de santé. Il y en a un tout petit nombre qui, effectivement, ont des réponses particulières et donc peuvent être plus toxiques à faible dose qu'à forte dose. Mais tout ça est en train d'avancer. Et en fait, on voudrait prendre des décisions. Et ce n'est pas anodin parce qu'on a l'impression que tout ça, finalement, c'est juste le problème d'un... Je vais vous donner un exemple. Selon la définition qu'on retient, on baisse de 15% la production de céréales dans toute l'Europe. On fait disparaître la production de bananes de la planète. Ok, c'est ça. Bah, écoutez, monsieur Nicolino, il n'y a pas une banane au monde qui est produite sans être traitée avec des fongicides qui sont des triazoles. Si on interdit les triazoles, il n'y a plus de bananes.
Non, écoutez, si je peux me permettre, je veux dire, ça, c'est de la propagande. Pardonnez-moi, c'est de la propagande. Alors, moi, je vous renvoie à un colloque. 2007, FAO, mai 2007, FAO à Rome. La FAO, c'est la grande agence onusienne de l'agriculture et de l'alimentation. Colloque de la FAO avec des experts venus du monde entier, des experts, monsieur Michels, qui disent explicitement dans un gros rapport que j'ai chez moi et que j'ai lu, que l'agriculture biologique serait susceptible d'ouvrir la totalité de la planète à un coût écologique.
C'est un mensonge. La FAO a publié un démenti disant que ce n'était pas
ce rapport, monsieur Michels.
Ce n'est pas un rapport de la FAO. La FAO a fait un communiqué de presse disant que ce rapport n'était pas un rapport de la FAO. C'est tenu dans une salle de la FAO. Ça a été présenté quand même. Je laisse les auditeurs aller sur Internet chercher le communiqué de presse de la FAO.
Alors je finis. Je finis avec un autre point. Je finis avec Olivier Schutter.
Juste pour finir sur ce point.
Je m'excuse.
Pourquoi
l'agriculteur ?
Finissez l'un et l'autre, mais pas en même temps.
Qui a travaillé pour l'ONU, qui était le délégué mondial pour la sécurité alimentaire de l'ONU pendant 6 années, a publié en 2011 un rapport que j'ai aussi chez moi et que j'ai également lu sur la sécurité alimentaire, dans lequel il dit explicitement que si... Avec d'autres politiques menées sur le plan mondial, les petits paysans seraient capables de doubler la production alimentaire en 10 ans. Donc, ce que vous voulez dire, pour des raisons politiques complexes qu'on n'a pas
le temps d'aborder. Pourquoi les agriculteurs bio ont 40% de rendement de moins que les agriculteurs conventionnels ?
C'est que là vous exprimez en propagandiste des intérêts de l'industrie des pesticides. C'est ça qu'il faut entendre. Et moi, j'entends ça.
Écoutez, il y a une réalité très simple. Moi, si on était capable de produire suffisamment et autant en agriculture biologique, ou en tout cas sans traitement de synthèse, je serais ravi et ça ne me pose aucun problème. Aujourd'hui, la réalité des rendements en France, qui est quand même un pays avec un haut niveau de technicité agricole, c'est qu'il y a des rendements qui sont à peu près inférieurs de 40%. Et ça s'explique très bien. Et ce n'est pas un problème. C'est très bien qu'il y ait de l'agriculture biologique. Il y a des zones en plus où ça permet de maintenir des agriculteurs avec des valorisations très, très intéressantes. Il y a des consommateurs qui veulent ces produits. Donc, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais on ne peut pas laisser dire... Pourquoi un agriculteur il irait dépenser 20-30 000 euros d'achat de pesticides par an si ça lui servait à rien, s'il était capable de produire autant sans? Ils sont stupides à ce point-là, vous pensez, les agriculteurs?
Bon, on n'a pas le temps de répondre à cette dernière question. Enfin, personne ne pense en tout cas que les agriculteurs soient stupides. On est quasiment au terme de l'émission, donc je renvoie hein, les auditrices et les auditeurs à la lecture de vos deux ouvrages, Serge Michel et Patrick... Fabrice Nicolino. Je voulais terminer avec vous, Fabrice Nicolino. Juste une question que je me pose vraiment, mais d'un point de vue extrêmement concret. Je me dis, bon, il y a peut-être des personnes ce soir en nous écoutant qui auront été plutôt rassurées par Serge Michel, et puis d'autres qui auraient peut-être qui seront peut-être davantage inquiètes après vous avoir entendu Fabrice Nicolino. Comment vous faites-vous, par exemple, au quotidien, connaissant en fait cette menace des produits chimiques, comment vous faites pour vivre avec ou pour vivre sans, justement ?
Écoutez, pour ce qui me concerne, moi personnellement, les cheveux sont faits de mon point de vue, mais disons que je crois qu'il faut faire attention et il y a quantité de méthodes simples qui permettent de faire attention, qui permettent de se passer par exemple de plastique dans l'intérieur des maisons, qui permettent d'éviter des produits ménagers. On n'a pas parlé de ces fameux savons liquides qui contiennent du triclosan en France et le dentifrice aussi, certains dentifrices qui contiennent du triclosan, un perturbateur endocrinien tout à fait certain. Donc il y a des moyens de se protéger, il faut faire attention. Mais c'est difficile.
Eh ben merci en tout cas à vous deux d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle hein, le titre de vos ouvrages respectifs. Fabrice Nicolino, Un empoisonnement universel aux éditions Les liens qui libèrent. Serge Michels, Le marketing de la peur aux éditions Erol. Je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de commentaires ce soir pour prolonger l'émission. C'est sur franceculture.fr à la page du grain à moudre. La réécoute pendant 1000 jours, les téléchargements pendant un an. Demain, nous irons en Chine pour poser la question suivante. Xi Jinping veut-il réécrire le petit livre rouge ?